Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, au nom du devoir de vérité, l'Ordre des Dominicains de Toulouse lance un appel à témoignages après l'onde de choc du rapport Sauvé. Les religieux demandent aux victimes de violences sexuelles commises par les prêtres de cet ordre à prendre la parole. Entre recomposition et décomposition, les socialistes s'interrogent au lendemain de l'accord signé avec la France Insoumise en vue des législatives. Certaines fédérations du PS s'interrogent sur leur maintien dans certaines circonscriptions. La Corrèze pourrait entrer en dissidence. À suivre également le calvaire des reclus de l'usine d'Azovstal à Marioupol. Vous entendrez le témoignage d'un combattant ukrainien. La Hongrie renacle à signer le projet européen d'embargo sur le pétrole russe. Le secteur du textile reprend des couleurs en France au mois d'avril. Et puis le choix culturel de ce vendredi, c'est le roman d'un jeune auteur biélorusse, Sacha Filipenko, file la métaphore entre le coma de son personnage et la dictature.
France Inter. Et pour commencer, un appel inédit lancé par des prêtres de Toulouse.
L'Ordre des Dominicains invite les victimes de violences sexuelles à témoigner dans la foulée de l'onde de choc créée par le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, qui estimait à plus de 300 000 le nombre d'enfants agressés depuis 1950 par des clercs, des religieux ou des personnes en lien avec l'Église. Toutes les victimes, loin de là, n'ont pas parlé. Alors cet appel est adressé à tous ceux qui ont fréquenté les couvents de la Providence, de la province, pardon. Un prêtre dominicain a déjà été condamné pour des faits commis dans les années 90, mais des soupçons pèsent sur d'autres ecclésiastiques. À Toulouse, Hugo Charpentier.
L'appel lancé par ces dominicains concerne l'ordre de la province, une communauté qui couvre un gros tiers sud de la France, de la Charente-Maritime jusqu'à Nice, en passant par Toulouse, où se trouve le siège. Jusqu'à présent, un seul religieux a été condamné pour des faits de violence sexuelle. Il était passé par l'abbaye de Sylvanès dans le sud de l'Aveyron au cours des années 90. Mais aujourd'hui, les témoignages se multiplient.
Il y a environ 25 plaintes qui ont été recensées.
Olivier de Saint-Martin, le prieur de Toulouse.
Pas forcément des plaintes qui ont été déposées, mais nous avons fait tout un travail dans les archives et nous avons trouvé, parfois dans des courriers, une allégation de fait. Nous le comptons dans ces 25 instructions.
Des dossiers qui ont été transmis à la justice, mais désormais dans le sillage du rapport Sauvé publié en octobre dernier, cette communauté veut aller encore plus loin.
Nous nous sommes dit qu'il y avait sans doute, peut-être, des victimes qui ne s'étaient pas encore fait connaître. Quand je vois la difficulté qu'a une victime de révéler ce qu'elle a subi, je ne peux pas en conscience me dire que toutes les victimes ont parlé. Je ne sais pas si toutes les victimes ont parlé.
À la fin du mois, les 30 et 31 mai prochains, des membres de la commission reconnaissance et réparation seront présents à Toulouse pour écouter les victimes et les témoins qui souhaitent briser le silence.
Hugo Charpentier. Une nouvelle suspension au procès des attentats du 13 novembre à Paris. Un des accusés est positif au Covid. Les débats reprendront le 17 mai et le verdict pourrait être rendu le 29 juin. C'est l'une des innovations de ce procès, la web radio qui permet aux parties civiles de suivre les débats à distance. Pour le procès de l'attentat de Nice qui s'ouvrira en septembre, la web radio sera accessible depuis l'outre-mer et l'étranger. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Plus de 800 personnes se sont constituées parties civiles pour ce procès. On vous en parlait mercredi matin sur France Inter. Un vétérinaire qui avait fourni à un ami atteint d'une maladie dégénérative les moyens de se suicider a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Angers. C'était une première. On apprend aujourd'hui que le parquet fait appel de cette relaxe. Le vétérinaire sera donc rejugé pour faux et usage de faux. Il avait fait de fausses ordonnances pour fournir à cet ami des produits euthanasiants vétérinaires.
Le retour de l'union de la gauche ne se fait pas sans dégâts.
Le Parti socialiste a validé hier soir l'accord signé avec la France Insoumise en vue des législatives avec 62% de voix pour lors d'un conseil national historique. Le PS rejoint donc la NUPES, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Au-dessus, la majorité présidentielle tend la main. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui-même ancien du PS, adresse une lettre à ses anciens camarades qui s'interrogent et il qualifie cet accord d'affront populaire. En Corrèze, notamment terre historique du socialisme, la pilule est en tout cas difficile à avaler avec zéro candidat socialiste dans le département. Dans la première circonscription, qui était celle d'un certain François Hollande, c'est un candidat insoumis qui portera les couleurs de la NUPES. Alors les socialistes corréziens s'interrogent, feront-ils dissidence? Paul Roche, le secrétaire fédéral du PS, ne l'exclut pas, car les divergences sont trop importantes.
L'Europe, la laïcité, le rapport avec la Russie de Vladimir Poutine paraissent des éléments fondamentaux sur nos valeurs en tant que socialistes. Après, sur la répartition des circonscriptions, n'est pas représentative de ce qui est l'implantation territoriale du Parti Socialiste, eu égard aux résultats des dernières élections, qu'elles soient municipales, départementales ou régionales. Et je crains malheureusement qu'elle crée de faux espoirs parmi les électrices et les électeurs. Et ça me paraît quelque chose à considérer dans l'appréciation que l'on peut avoir. Nous allons réunir le Conseil fédéral dans les prochains jours afin d'adopter une position collective qui sera celle des militants de la Fédération de la Corrèze du Parti Socialiste.
Ça veut dire éventuellement une dissidence ?
Nous verrons quel sera le débat et les conclusions du débat que nous aurons entre nous. Voilà.
Paul Roche, interrogé par Philippe Graziani. Et la photo de famille de la NUPES, ce sera demain à Aubervilliers, lors de la convention d'investiture. La majorité présidentielle, elle, espère obtenir 340 députés lors des élections du 12 et du 19 juin. Et puis enfin, on apprend que François Hollande, Nicolas Sarkozy et Édouard Philippe seront présents demain matin pour la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Investiture à suivre en direct demain sur France Inter à partir de 11h. Les jours se suivent et se ressemblent à Mariupol en Ukraine. Un nouveau convoi de l'ONU se dirige vers la ville portuaire pour évacuer les derniers civils retranchés dans l'aciérie d'Azovstal, mais sans garantie d'y arriver. 500 personnes ont pu sortir de l'enfer d'Azovstal ces derniers jours. C'est la dernière poche de résistance face à l'armée russe et les combattants ukrainiens accusent les Russes de ne pas respecter le cessez-le-feu annoncé hier pour 3 jours. Sur place, les militaires et les civils survivent avec très peu d'eau et de nourriture, sans médicaments et sous des bombardements incessants. Écoutez ce témoignage d'un combattant ukrainien recueilli il y a quelques jours par la radio britannique BBC4. Mikhail Vershinin est le chef de la police de patrouille pour la région de Donetsk.
Nos réserves de nourriture diminuent à vue d'œil, nous en avons de moins en moins. Les gens reçoivent des portions simplement de quoi rester en vie. Bien sûr, il y a des cas où les gens perdent connaissance parce qu'ils ne mangent pas assez, ça arrive, surtout en ce qui concerne les blessés. Ils auraient besoin de prendre des forces pour se rétablir, mais nous n'avons pas suffisamment de rations pour les nourrir. C'est la même histoire avec l'eau, nous en avons très peu, donc nous rationnons aussi. Nous économisons au maximum. Oui, il y a des cas où les gens perdent connaissance parce qu'ils ne mangent pas assez. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à sortir de là, à lever les mains en l'air et qu'ils se rendent. Nous ne nous rendrons pas.
Et puis Moscou dément vouloir célébrer le 9 mai à Mariupol, le jour de la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Des renseignements ukrainiens faisaient état de préparatifs pour un défilé militaire dans la ville. Cette année, c'est impossible pour des raisons évidentes, dit le porte-parole du Kremlin. Sur le front des sanctions maintenant, ça bloque toujours sur le projet d'embargo européen sur le pétrole russe. Les 27 discutent à Bruxelles d'une nouvelle version du texte. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Et la Hongrie s'y oppose, les négociations sont difficiles.
Oui, l'objectif de la Commission est d'arriver à boucler l'affaire avant lundi, date symbolique qui correspond à la fête de l'Europe d'un côté et à la victoire contre l'Allemagne nazie de l'autre. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, la Russie célébrant toujours avec fierté cette célébration. Le blocage, lui, vient de la Hongrie qui a fait de l'embargo sur le pétrole une ligne rouge à ne pas franchir. Il faut dire que le pays, tout comme la Slovaquie, n'a pas de débouché sur la mer et qu'il craint de se retrouver en pénurie de carburant. Il est habituellement approvisionné par un oléoduc qui arrive tout droit de Russie. Blocage donc politique, mais qui pourrait trouver une solution technique pour faire plaisir au Premier ministre hongrois. L'Europe propose d'accorder une dérogation qui permettrait de repousser l'arrêt des importations de brut pour ce pays jusqu'à la fin 2024 et non 2023 comme prévu initialement. D'autres discussions sur les sanctions souhaitées par l'Union ont également lieu. Viktor Orban semble en profiter de l'occasion pour faire monter les enchères, car il sait que pour s'appliquer les nouvelles sanctions doivent être adoptées à l'unanimité par les 27.
Merci Nathanaël Charbonnier. Et puis dimanche, le G7 se réunira virtuellement pour parler également de la guerre en Ukraine. Les dirigeants des 7 grandes puissances ont invité le président Volodymyr Zelensky. Au Royaume-Uni, le décompte n'est pas terminé après les élections locales d'hier, mais d'ores et déjà, on sait que c'est un revers pour le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson. L'opposition travailliste remporte notamment quelques secteurs très symboliques à Londres, comme celui de Westminster. Au pouvoir depuis 12 12 ans, les conservateurs payent les conséquences de l'inflation très élevée, proche de 10%, et du scandale des fêtes à Downing Street. Seule consolation, si on peut dire, pour Boris Johnson. Le chef des travaillistes est à son tour visé par une enquête. Keir Starmer avait partagé de la bière et des curries avec son équipe en intérieur au printemps 2021. C'était en plein confinement.
Est-ce dû au retour des beaux jours? Toujours est-il que le secteur du textile retrouve des couleurs.
Oui, en France, malgré l'inflation, en avril, les ventes en magasin ont dépassé celles d'avril 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid. Une hausse de 1,6% qui monte à plus 6% si on intègre les achats par Internet. Une embellie qui surprend même les acteurs du secteur. Emmanuel Leroc est le président de Procos, qui représente plus de 300 enseignes, dont de nombreuses dans l'habillement.
C'est un peu une surprise quand même. C'est un peu une surprise parce que, en fait, ce qu'on continue de constater, c'est qu'il y a quand même une fréquentation qui reste en retrait de 20% à peu près dans les magasins. Donc aujourd'hui, comme il y a une fréquentation plus faible, très clairement, on constate que le panier moyen, c'est-à-dire que ce qu'achètent les gens qui se déplacent, est nettement plus élevé que ce qu'il était en 2019. Donc ça veut dire effectivement que soit on refait un peu sa garde-robe, soit ceux qui se déplacent achètent de toute façon davantage, parce que baisse de fréquentation, mais quand on se déplace pour acheter plus que pour flâner, on va dire. Donc c'est ça, en gros, c'est quand même ça le changement de l'habitude. Ça acte quand même de l'envie des Français de retourner s'habiller, une volonté des Français de retrouver une vie normale, et donc effectivement ça donne des résultats qui sont plutôt corrects en fin de mois.
Emmanuel Leroc avec Maxime Deps. Le choix culturel du vendredi, c'est un roman de Sacha Filipenko. Ce jeune biélorusse a vécu en Russie pendant des années, humoriste sur une chaîne indépendante. Sacha Filipenko appartenait à cette opposition tolérée par le pouvoir russe jusqu'à la glaciation brutale de ces dernières années. Aujourd'hui, il est indésirable tant à Moscou qu'à Minsk, sa ville d'origine. Sacha Filipenko publie son troisième roman en forme de métaphore où le coma fait écho à la dictature. Ilana Moriousef a lu pour nous Un fils perdu.
C'est l'histoire d'un coma qui va durer 10 ans. Pris dans une bousculade après un concert, Francisque, un jeune homme de 16 ans, perd connaissance. À l'hôpital, sa géniale grand-mère, Elvira, est bien la seule à croire qu'il va se réveiller un jour. Quand il reprend enfin connaissance, 10 ans plus tard, rien n'a changé, ou si peu, dans son pays, tenu d'une main de fer par un dictateur inamovible. Sacha Filipenko.
J'ai quitté mon pays en 2004, quand Loukachenko a fermé mon université. À Minsk. Je suis parti étudier à Saint-Pétersbourg et j'ai eu l'impression que pendant tout ce temps, mon pays était dans le coma. Cette métaphore, j'en ai eu l'idée en une seconde. Et après, en quelques années, j'ai écrit le livre.
À son réveil, le héros du livre, Francisque, essaie de se réadapter à une vie terne, sans désir, sans liberté. Arrivent les élections, et avec elles un peu d'espoir, vite douché par la chape de plomb qui s'abat à nouveau sur le pays, comme une répétition générale de ce que l'on voit en Russie.
J'ai toujours dit que la Russie, en termes de dictature, rattrape la Biélorussie. La Biélorussie est comme une étape de répétition où l'on essaye tous les trucs de la dictature et tôt ou tard, ça arrive.
Aujourd'hui, ballotté entre la Suisse, l'Angleterre et l'Italie, Sacha Filipenko cherche un endroit où poser ses valises et où il pourra enfin envoyer son fils à l'école.
Ça s'appelle Un fils perdu de Sacha Filipenko, traduit du russe par Philippe Arnoux et Paul Lequen, publié aux éditions Noir sur Blanc. Un petit conseil de lecture pour ce week-end au soleil clair.
Je prends avec, merci beaucoup, avec plaisir. Corinne Audin, on va prendre des nouvelles du temps à présent.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Des averses sur l'extrême sud-est.
Oui, l'instabilité qui règne depuis quelques jours va progressivement faiblir, mais demain, de nouvelles averses vont se développer sur les Alpes et la Corse. Les premières averses bourgeonneront sur les hauteurs en fin de matinée. L'après-midi, ces averses seront plus marquées. Elles pourront déborder vers les plages, notamment sur la Côte d'Azur. Des orages pourront aussi éclater, surtout sur la Provence et la Corse du Sud. De la grêle est même possible par endroits. Des passages pluvieux glisseront aussi sur les Hauts-de-France demain. L'après-midi, le risque d'ondées s'étendra également vers la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne et la Lorraine. Quelques coups de tonnerre pourront aussi retentir, mais ils seront isolés dans l'Est parisien et en Champagne en fin de journée. Et puis sur le reste du pays, la journée sera quand même plus calme, les éclaircies seront belles, le soleil sera parfois atténué par un voile de nuages élevé. On trouvera un ciel plus dégagé sur la façade atlantique et également autour du golfe du Lion où le Mistral et la Tramontane resteront sensibles.
Du côté des températures, plutôt douces.
Oui, le seuil de chaleur de 25 degrés sera même parfois dépassé sur les régions de la moitié sud, 28 degrés à Aigues-Mortes, 27 degrés à Istres ou encore 25 degrés à Cahors. Prévoyez 24 degrés à Lyon, Carcassonne Boulogne et Mont-de-Marsan, 23 degrés pour Angoulême et Strasbourg, 22 degrés à Dijon et à Bourges. On ira jusqu'à 20 degrés à Paris et à Rennes, 17 degrés à Lille et 16 degrés à Rouen. Et puis les températures vont encore monter d'un cran dans les jours suivants. La semaine prochaine s'annonce même bien estivale.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.